Et à la une en Israël ce matin, ma chère Asley, vous vous entretenez avec Jonathan Serrero sur la nouvelle coalition. Et on précise quand même que cet entretien a eu lieu avant que Benjamin Netanyahou n'envoie son nouveau gouvernement à Itzhak Herzog. C'est bien ça?
Oui, voilà, les questions étaient tout à fait intemporelles, si ce n'est que la première. Il faut savoir que nous nous sommes entretenus avec Jonathan hier soir à 18h heure belge. À ce moment-là, Benjamin Netanyahou n'avait pas annoncé encore la formation de la coalition, mais Jonathan m'avait averti que ça ne saurait tarder, et c'est chose faite, donc je vous propose d'écouter cet entretien.
Eh bien, c'est parti.
Jonathan Serrero, bonjour.
Bonjour.
Merci d'accepter de répondre à nos questions sur Radio Judaïka. Vous êtes journaliste et analyste politique, et aujourd'hui, comme bien souvent avec vous, on va parler de politique israélienne à l'approche de la prestation de serment du nouveau gouvernement de Benjamin Netanyahou. Alors, on le voit partout dans les médias, le nouveau gouvernement devrait être révélé très très bientôt. Donc, on connaît déjà certains grands noms et certains postes pour cette nouvelle coalition, avec par exemple le chef d'Otzma Yehudit, Itamar Ben-Gvir, comme futur ministre de la Sécurité nationale, Bezalel Smotrich, qui serait nommé ministre chargé des implantations en Judée-Samarie, ou encore Arié Dery à l'intérieur et à la santé. Est-ce que cette nouvelle coalition peut malgré tout révéler certaines surprises?
Je dirais que cette coalition, on l'a déjà vue à l'œuvre au mois de décembre 2018. C'était lors des débats qui avaient animé le landerneau politique israélien sur la loi de conscription des élèves des établissements talmudiques. Et cette coalition formée des partis orthodoxes du judaïsme de la Torah, du parti Chasse, mais aussi du parti sioniste religieux de Bezalel Smotrich, à l'époque c'était Naftali Bennett, mais c'était la même mouvance. Il y avait aussi Ayelet Shaked, et cette coalition était tombée sur cette question de la conscription des élèves des établissements talmudiques. Cette fois, Benjamin Netanyahou a, je dirais, pris le temps d'essayer de contourner les futurs obstacles qui pourraient se présenter à lui dès les premières semaines de vie de cette coalition et dans un futur plus lointain sur des questions essentielles, notamment sur la question des territoires, sur la question de ces élèves des établissements talmudiques, de tous les budgets qui pourraient être alloués, que ce soit au monde orthodoxe, mais aussi au monde sioniste religieux. Cela a animé les débats, les négociations ces derniers jours encore, et concernant aussi les prérogatives qui seront allouées, que ce soit à Bezalel Smotrich, que ce soit à Arié Dery, mais aussi à Itamar Ben-Gvir. Il y a des lois qui sont en cours de vote du côté de la Knesset, et certains ont exigé que ces lois soient votées en même temps que la prestation de serment de ce gouvernement. Donc, Benjamin Netanyahou a essayé de réduire au maximum les futurs obstacles qui pourraient se présenter à lui dans un futur proche. Mais il y a toujours des obstacles au sein d'une coalition, et souvent cela vient de la propre famille politique de Benjamin Netanyahou. On voit certains éclats de voix, au sein du Likoud, notamment entre des députés qui ne sont pas connus du grand public. Je pense à Galit Distal Atbarian ou Tali Gottlieb, qui réclament des prérogatives élargies, un poste de vice-ministre ou un poste important de président d'une commission de la Knesset. Donc il y a une pression interne au Likoud pour Benjamin Netanyahou, et cela pourrait être l'écueil pour le futur Premier ministre israélien.
Alors justement, on vient de parler d'Itamar Ben-Gvir, de Smotrich, d'Arié Dery. Il y a pas mal de propos qui font état du fait que Benjamin Netanyahou doit leur céder pas mal de terrain. Alors finalement, qu'en est-il?
Je dirais que c'est le jeu des négociations. En ce moment, on est un sorte de lutte de pouvoir entre les différents cadres de cette future coalition, les différents chefs de parti de cette coalition. Il y a aussi des électorats à satisfaire pour ces différents chefs de parti de coalition. Mais finalement, c'est Benjamin Netanyahou qui garde la main quant à son rôle, son futur rôle de Premier ministre de l'État d'Israël. C'est lui qui gouverne, c'est lui qui prendra les décisions importantes pour l'avenir de l'État d'Israël. Il y a de nombreux sujets sur lesquels Benjamin Netanyahou est attendu au tournant, les relations avec l'administration Biden, le sujet, le dossier iranien, du nucléaire iranien, des négociations qui sont menées entre l'Iran et les grandes puissances en ce moment, la question ukrainienne aussi, du conflit en Ukraine, les questions internes aussi, des relations avec les Palestiniens, des violences aussi au sein de la société israélienne, des relations aussi avec le secteur arabe israélien. Sur toutes ces questions, Benjamin Netanyahou va essayer d'imposer sa politique avec justement aussi des chefs de parti qui ont un poids électoral important puisqu'ils ont réalisé un score important lors des dernières élections du 1er novembre dernier.
Alors, le Premier ministre sortant, Yair Lapid, qui est à présent chef de l'opposition entrante, a déclaré récemment que selon lui, l'opposition entrante sera très limitée dans ses actions au sein de la nouvelle Knesset. Est-ce qu'on peut dire que finalement, c'est le bloc de Netanyahou qui va contrôler l'essentiel du Parlement, surtout avec le numéro 2 du Likoud, Yariv Levin, qui préside la nouvelle Knesset?
Je dirais qu'avec 64 députés, Benjamin Netanyahou a tiré les coups des franges pour gouverner. Mais je dirais que du côté de Yair Lapid, il y a une sorte d'aveu de faiblesse. Alors, il sait que son opposition est morcelée de par la composition et les personnalités qui composent cette composition. Mais on a vu que lors de la dernière mandature, lors de la dernière opposition que l'on a vue à la coalition Yair Lapid-Naftali Bennett, elle avait été très, très offensive contre la coalition. Elle avait instauré une pression constante du côté du Parlement pour essayer de faire tomber les lois une à une de la coalition. Alors, nous n'étions pas dans la même configuration puisqu'il y avait un rapport de force assez égal entre les deux côtés de la Knesset, que ce soit entre l'opposition et la coalition. Mais du côté de Yair Lapid, je dirais que son seul socle de pouvoir, c'est son parti, déjà, le Yesh Atid, puisque le Yesh Atid compte plus d'une vingtaine de députés du côté de la Knesset. Il peut compter aussi sur une opinion publique qu'il essaiera de mobiliser sur les questions notamment identitaires. Je prends toujours comme exemple l'enrôlement des élèves des établissements talmudiques, la place de la religion au sein des questions sociales et sociétales en Israël, des questions qui mobilisent l'électorat laïque israélien. Et puis peut-être que Yair Lapid devrait faire quelques pas en avant du côté de Benny Gantz, hein, Benny Gantz qui a, pardonnez-moi l'expression, les fesses entre deux chaises pour être un peu plus familier, qui peut-être voit son avenir du côté de l'actuelle coalition, mais au sein de l'actuelle coalition, on ne veut pas entendre parler d'une entrée de Benny Gantz. Donc, il y a un rapprochement à faire entre Yair Lapid et Benny Gantz pour, solidifier et renforcer le pouvoir de cette future opposition. Il y a toujours le parti travailliste aussi, mais pour Yair Lapid, l'avenir s'annonce assez difficile, mais il lui reste tout de même quelques leviers de pression à mettre sur la future coalition.
Une dernière question, Jonathan Serrero. Benjamin Netanyahou a juré de continuer à ignorer les conseils non fondés du New York Times après que le journal a publié samedi dernier un édito avertissant que le futur gouvernement israélien représenterait un danger pour la démocratie israélienne. Alors, est-ce qu'en Occident, que ce soit aux États-Unis ou en Europe, on est à même de comprendre ce tournant politique, entre guillemets, en Israël?
Je dirais que Benjamin Netanyahou, qui ignore le New York Times, cela date de près de 40 ans, si on suit bien la biographie de Benjamin Netanyahou, si on lit aussi la biographie de Benjamin Netanyahou. Benjamin Netanyahou s'est toujours gardé d'organiser des interviews avec le New York Times, de transmettre des informations au New York Times, qui est assez hostile à Benjamin Netanyahou depuis les calendes grecques, je dirais, depuis que Benjamin Netanyahou est apparu au grand public. Benjamin Netanyahou, je dirais, organise des interviews et s'adresse au public américain, sait s'adresser au public américain de par sa faculté et ses facilités en anglais. Il sait s'adresser au public américain par l'intermédiaire des grands blogueurs ou des journalistes, de grands journalistes aux États-Unis. On l'a vu il y a quelques mois donner une interview fleuve à Ben Shapiro, l'un des blogueurs phares aux États-Unis. Il s'invite aussi au Congrès, Benjamin Netanyahu, lorsqu'il a un message à adresser. Donc, je ne m'inquiète pas du fait de voir Benjamin Netanyahu savoir faire passer des messages à l'opinion publique américaine, à l'administration Biden. Les deux hommes se connaissent depuis près de 40 ans, voire un peu plus. Donc, Benjamin Netanyahu a ses entrées aux États-Unis. Donc, sur cette question-là, il n'y a aucune inquiétude à avoir quant aussi aux relations, à l'avenir des relations entre Israël et les États-Unis.
Merci beaucoup, Jonathan Serrero, d'avoir accepté de répondre à nos questions sur Radio Judaïka. Je rappelle à nos auditeurs que vous êtes journaliste et analyste politique. Merci beaucoup, comme chaque fois, pour vos précieux éclairages. À très bientôt.